psaume 127, pour les deux premiers versets, ou une première des lectures pour la prédication. Le psaume 127, les versets 1 et 2. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain d'affliction. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'il dort. Le deuxième texte se trouve dans Matthieu, au chapitre 16. Nous sommes dans l'Évangile, qui rapporte fidèlement ce qui s'est passé lorsque Jésus était sur terre. Matthieu 16, nous lirons qu'une partie de verset, et ensuite nous lirons à la fin du livre, au chapitre 28. Le verset 18, la deuxième partie, simplement. Alors, c'est « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » C'est Jésus qui dit cela. « Je bâtirai mon église. » Et nous allons au chapitre 28, verset 18. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et un troisième texte, dans les Actes, le livre des Actes, au chapitre 2. Et nous lirons à partir du verset 36. Acte 2, verset 36, jusqu'à la fin du chapitre. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, fut ajouté environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Car chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple, d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Un privilège d'avoir la parole de Dieu qui nous est transmise, qui est complète, qui fait autorité. Voilà pourquoi c'est notre référence. Et nous désirons ce matin être à son écoute. Et afin de ne pas vivre ce qui s'est passé à Babel lors de la construction. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé à Babel, tu te souviens? À Babel, ils ont commencé à construire ensemble et tout à coup, ils n'ont plus pu construire ensemble parce qu'ils n'arrivaient plus à se comprendre. Eh bien, mon désir, c'est qu'en construisant l'Église, nous n'arrivons pas à cette situation de Babel, mais que justement l'Esprit de Dieu nous permette de saisir ce que lui désire et que chacun saisisse la même chose selon sa parole pour y répondre en commun. C'est sur le Saint-Esprit qu'on compte justement aujourd'hui encore. Comme nous sommes dans l'année des 10 ans de la constitution de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, et afin de rappeler et enseigner les fondements de l'Église, nous avons commencé maintenant une petite série qui s'intitule « L'Église de Dieu et l'Évangile rendu visible ». Et lors de la première prédication, nous avons posé un premier fondement, nous avons dit que Jésus-Christ aime l'Église. Nous pourrions dire autrement, l'Église que Jésus-Christ aime. Et nous avons vu trois parties. La première, c'est que Jésus, dans son amour, s'est donné lui-même pour elle. Il l'aime et il la rend pure. Et il l'aime pour que nous l'aimions aussi. Ensuite, deuxième élément, nous avons vu que Jésus était uni à l'Église de manière indissociable, de manière intime. C'est-à-dire le modèle pour le couple, selon Dieu. Ce qui est à l'un est à l'autre. On avait vu tout cela ensemble. Et troisièmement, nous avons vu que Jésus-Christ est la tête du corps qu'est l'Église. Nous avons vu que c'était une union carrément organique entre l'Église et Christ, et qu'on ne pouvait pas les séparer. Et voici quelques affirmations utiles à une bonne compréhension de l'Église. Quelques-unes ont déjà été énoncées, mais c'est bien de s'en souvenir. Simplement quelques affirmations utiles. La première, c'est que l'Église, c'est l'institution de Dieu. Elle n'est pas centrée sur l'homme, basée sur l'homme et à propos de l'homme. Mais l'Église est centrée sur Dieu, basée sur Dieu et à propos de Dieu, le Père, Fils et Saint-Esprit. L'Église, c'est la société de sauvés par Christ et pour Christ. L'Église est formée d'ennemis, rachetés, réconciliés en Christ. Parce que nous étions tous ennemis, mais rachetés et réconciliés en Christ. L'Église, c'est l'Évangile rendu visible. Ou encore, comme Ève a été créée par une côte d'Adam, l'Église est bâtie sur Christ. L'Église, c'est le joyau que Christ prépare pour ses noces. C'est le joyau que Christ prépare pour ses noces. L'Église, c'est la totalité de la communion de personnes réelles transformées par Christ dans un lieu tangible à une époque effective. Tous rassemblés. L'Église, c'est un corps organisé avec des membres clairement déterminés, une conduite disciplinée dans une structure explicitement établie. Donc l'Église, c'est un corps avec des membres clairement déterminés, une conduite disciplinée et une structure explicitement établie. Alors malheureusement, de nos jours, des chrétiens happés par la religion, il y a une religion particulière actuellement, c'est la recherche de la nouveauté. La religion de la recherche de la nouveauté qui est prônée par notre société. Eh bien certains sont touchés par cette religion de la recherche de la nouveauté et sont fatigués du modèle biblique. Bien que souvent, peut-être même, ils ne le saisissent pas vraiment. Ils cherchent des nouvelles formes d'église. Ils ont des problèmes avec la notion d'église organisée, avec le fait d'être membre d'une église, qu'il y ait des responsables établis. Ils voient tout cela, en fait, comme des inventions humaines. Ils voient l'église universelle, un petit peu comme un grand nuage dans lequel il est possible d'être sans voir les autres, un peu comme dans un brouillard. Ils ne sont donc plus rattachés à aucune église locale. Ils se baladent de restaurant en restaurant spirituel, restant plus ou moins longtemps selon le menu qui y est proposé. Vous savez, il y a bien des années, lorsqu'on allait au magasin d'alimentation, donc ça, faut bien revenir en arrière, quand on allait au magasin d'alimentation, eh bien, on arrivait chez Odette. Enfin, je ne sais pas si elle s'appelait Odette à l'époque chez vous, mais on arrivait chez Odette, et en fait, elle se faisait un plaisir de nous servir. Si on cherchait du thon, elle a cherché la petite boîte de thon qui était cachée derrière les tas de kilos de farine, par exemple. Et si on parlait de la recette qu'on allait faire à midi, eh bien, Odette avait toujours une petite idée de ce qu'on pouvait encore y ajouter. Ou les autres personnes du village qui étaient par là à ce moment-là. On aimait bien aller chez Odette, qui avait un grand sourire lorsqu'on allait. Parfois même, elle donnait des bonbons aux enfants. Bon, c'est vrai que 100 kilos de sucre était bien 10 centimes plus cher, mais on y allait quand même. Aujourd'hui, il est possible, en fait, de prendre ces commissions avec une tipeuse, où on type nous-mêmes ce qu'on achète dans les magasins, de même plus passer par la caissière où nous pouvions encore lui dire bonjour hier. Encore plus pratique, nous pouvons aller sur Internet et commander des aliments qui nous sont apportés même si on n'est pas là. Et si jamais on trouve moins cher ailleurs, eh bien on change. En fait, il est tentant d'agir de même envers l'Église, comme pour l'achat d'aliments. Le moins d'investissement possible dans l'Église. Donc aller où on nous demande le moins, où l'on pense recevoir le plus. ce qui peut pousser d'aller d'une église à l'autre sans engagement, ou de rester dans une église tant que l'on ne nous demande pas trop, ou de butiner même sans se déplacer en utilisant Internet. Mais comment une église est-elle construite? Comment doit-elle être ordonnée? Comment doit-elle être vécue? Et bien, pour bien saisir cela, pour que la fidélité et l'engagement que cela implique soient réellement compris, il nous faut retourner vers la tête, vers l'époux, vers le chef de l'église, vers Christ qui s'est livré lui-même pour elle, qui l'a acquise par son sang. Il est intéressant de voir que la première fois que le terme église est utilisé dans la bouche de Jésus, eh bien, c'est pour nous donner un fondement de l'église. La première fois que Jésus parle de l'église, il nous donne un fondement. C'est notre premier point, le fondement de la construction, et ça se trouve justement dans Matthieu 16, 18, qu'on a lu tout à l'heure. Matthieu 16, 18, la deuxième partie, où Jésus dit « Je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Mon église. Jésus, dès la première fois qu'il mentionne l'église, la revendique pour sienne. Mon église. Pas la vôtre. Pas la sienne. Non, mon église. C'est lui qui l'a inventée. C'est lui qui l'a instituée, qui l'a créée. C'est lui qui l'a construite, qui l'organise, qui la garde, qui l'a rachetée avec son propre sang. Les hommes n'ont pas à faire ce qu'ils veulent dans l'église. Elle ne leur appartient pas. Elle est à Christ. Et c'est lui qui a toute autorité pour définir comment l'église doit se construire, ce qu'on y croit, ce qu'on y vit. Si Jésus dit « mon église », cela signifie qu'elle n'appartient à personne d'autre. S'il dit « mon église », ça signifie qu'elle appartient à personne d'autre. Elle n'est soumise à personne d'autre, que ce soit le pape, une dénomination, un comité, un pasteur ou qui que ce soit. L'église doit sa soumission à Jésus seul. Deuxième enseignement du fondement de la construction que nous trouvons dans ce verset de Matthieu 16, c'est que Jésus lui-même bâtit son église. Je bâtirai mon église. Jésus, en fait, il ne fait pas de la sous-traitance. Il n'a pas donné le travail à faire et il s'est retiré. Non. C'est son travail. Il est actif. Il agit puissamment. Chaque pierre de l'édifice, c'est Jésus qui l'amène. Chaque membre de l'église l'est par sa puissance. C'est son travail, il est actif. Chaque pierre de l'église, c'est Jésus qui l'amène. Chaque membre de l'église l'est par sa puissance. C'est Jésus qui bâtit. Oui, oui, il utilise des instruments humains, c'est juste, c'est vrai. Mais que faire avec des instruments sans le constructeur? C'est d'ailleurs ce que nous avons pu entendre dans ce psaume 127 qui est très clair. Si Dieu ne bâtit la maison, cela ne sert à rien. C'est Jésus lui-même qui décide des fondations, de la manière de construire. Et il ne demande pas aux nouveaux convertis ou des églises « Comment vous aimeriez qu'on construise l'église ?» Non, c'est lui qui donne les fondements, les fondations. Et comme on le verra plus tard, il donne aussi le plan de construction. Voici ce qui est dit dans Éphésiens 2, les versets 20-21. Regardez avec moi dans Éphésiens. C'est bon, on fait des bérets, toujours aller voir qu'est-ce qu'il dit. Est-ce que c'est dans la parole, Éphésiens 2, les versets 20 et 21. Où il nous a dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc c'est Jésus la pierre de l'angle. C'est Jésus qui a transmis des ordres, qui a mis en action le travail de construction. Il est la tête, il est l'architecte, il est le chef de chantier, il est le pourvoyeur, il est le sauveur, il est l'union de l'Église, il en est la base. Je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. Et le troisième élément que nous trouvons dans ce texte, eh bien c'est en fait qu'elle résiste à toute épreuve, cette construction. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Vous savez, le monde va passer. Les philosophies qui ont changé depuis bien des temps, en chaque époque, les empires, les technologies ne sont que passagers, alors que l'Église, est éternelle. La construction de Jésus est bien plus solide que du béton armé, mais ne dépend pas de ce qui est visible. Car même les portes du séjour des morts, qui n'est pas visible, ne peuvent rien contre l'Église. L'histoire nous le montre bien. D'ailleurs, les trois premiers siècles ont été des siècles vraiment extrêmement sanglants dans la persécution contre l'Église. L'Église est toujours là. Dans le monde, actuellement, il y a des pays où ils cherchent à éradiquer le christianisme de la surface de la terre. Et l'Église est toujours là. Et parfois même plus forte encore dans des lieux persécutés. Vous savez, l'Église, écoutez bien, parce que moi je trouve ça extraordinaire, l'Église, c'est la communauté des ressuscités, de ceux qui ne meurent pas même s'ils sont morts. C'est ça l'Église. C'est une communauté de ressuscités, que même si on meurt, qui ne meurt pas même si on est mort. C'est ça l'Église. Les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Jésus construit une église qu'il n'est pas possible de détruire. Même si certains membres de ce corps, de cette communauté, sont éliminés, parfois, bien sûr, on n'est pas éternel dans notre chair sur cette terre. Mais Dieu remplace sur cette terre. Et bien entendu, l'église a un ensemble depuis le début de l'église. Nous sommes dans la même église que Pierre, que Paul, etc. Quelle grâce de pouvoir faire partie de cette construction indestructible. En fait, on devrait être fiers d'avoir en fait une construction si solide, hein. Être fier de notre propriétaire qui s'investit totalement et qui construit son église, qui la préserve. Est-ce qu'on est fier de Christ? Est-ce qu'on est fier de celui qui construit l'église? Et avant, avec ce premier point, on a pu comprendre clairement les fondements de la construction. L'église appartient à Jésus-Christ, mon église. C'est lui qui bâtit, je bâtirai mon église. Et c'est une église qui ne peut pas être détruite. Parlons maintenant du plan de construction que Jésus a donné à ses disciples. Nous en trouvons un résumé dans Matthieu 28. Or c'est vrai que Jésus a donné bien plus d'instructions que ces deux, trois phrases que nous trouvons à la fin de ce chapitre. Et que le Saint-Esprit d'ailleurs a rappelé aux apôtres qu'ils ont mis par écrit dans le Nouveau Testament. Mais prenons quelques instants quand même pour considérer ce résumé que Jésus a demandé à ses disciples. Et ce plan de construction se trouve dans Matthieu 28. On va revenir dans nos Bibles aussi dans Matthieu 28 pour l'avoir sous les yeux. Matthieu 28, et c'est les derniers versets. C'est le plan de construction. Deuxième point. Matthieu 28, verset 18. Hein. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tout pouvoir. Jésus souligne que le pouvoir réside en lui, que c'est lui l'autorité, c'est lui qui donne la force, c'est lui qui dirige, c'est lui qui est souverain. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, hein. Donc, ça souligne le pouvoir qui réside en lui, que c'est lui l'autorité, qui donne les forces, qui dirige et qui est souverain. Et en fait, à chaque fois que les disciples regarderont le plan de construction de l'Église, ils ne devront pas oublier que c'est Jésus qui a tout pouvoir, qui lui a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est lui la base, la source, le rédempteur, le propriétaire de l'Église. C'est intéressant de voir que, avant même de donner son plan de construction, il exprime qu'il a tout pouvoir. Eh bien, c'est comme lorsque Dieu a donné le décalogue aux Israélites. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la première phrase, du début de ce qu'il dit. Hein, il dit en fait à son peuple, « Moi, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » En fait, il exprime là que tout pouvoir lui a été donné, dans le ciel et sur la terre. Franchement, les Bibles, si ce n'est pas le pouvoir sur toute la terre... Et c'est celui qui sauve. Et là, Jésus-Christ, la même chose par rapport ici à l'Église, il dit, mais tout pouvoir m'a été donné. Et ensuite, il va donner le plan de construction. Quel est le plan de construction que nous trouvons ici au verset 19 et 20? Eh bien, c'est trois éléments. Évangéliser, baptiser, enseigner. Évangéliser, baptiser, enseigner. Premièrement, allez, faites de toute la nation des disciples. Évangéliser. Faites de toutes les nations des disciples, c'est prêcher l'évangile, prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pas simplement chercher une décision. Ça ne trouve nulle part dans le Nouveau Testament. On ne cherche pas une décision dans le Testament, on cherche des disciples. Des disciples, c'est des personnes qui apprennent de Jésus. Des personnes qui suivent Jésus, qui se conforment à son enseignement, qui aiment ce que Jésus aime et qui cherchent toujours plus à lui ressembler. Waouh, il y a beaucoup de choses là, hein. On va le reprendre juste pour bien se souvenir. Des disciples apprennent de Jésus, suivent Jésus, se conforment à son enseignement, aiment ce que Jésus aime et cherchent toujours plus à lui ressembler. Ça, c'est des disciples. Jésus, par ses premières paroles de l'Évangile, selon Marc, indique la manière d'annoncer l'Évangile. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la curiosité de voir quelles sont les premières paroles de Jésus dans Marc. Intéressant, parce que dans les premières paroles de Jésus dans Marc, il est dit « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous et croyez. » C'est l'évangile qu'on annonce. La repentance et la foi, qui n'est pas seulement vécue à un moment, mais qui devient une habitude de vie. Ça, c'est un disciple. Un disciple, ce n'est pas quelqu'un qui se repent, qui a la foi une fois. C'est quelqu'un qui a continuellement la foi, qui se repent continuellement. Le disciple doit être distingué des autres non-disciples. Jésus met une claire délimitation entre ceux qui sont dans l'Église et ceux qui ne le sont pas. Jésus veut que ça soit clair. Et pour le manifester publiquement, il enseigne le baptême d'eau par immersion. Et ça, c'est la deuxième partie. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le deuxième élément du plan de construction. Le baptême, c'est une marque du chrétien, une identification avec Jésus. Cela manifeste en fait publiquement que l'on appartient à Christ. On est sien, on est à lui. Et en plus, on manifeste publiquement qu'on fait partie de la même famille, qu'on est du même corps. C'est une manifestation de la repentance et de la foi. Alors les disciples, selon le divin architecte qui bâtit son Église, doivent être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tout simplement parce que l'architecte l'a dit. Et nous en voyons tous les bénéfices que je ne développe pas ici ce matin. Mais pour que les disciples puissent grandir dans la connaissance de Christ et comprendre sa volonté, eh bien, il y a trois éléments. Souvenez, évangéliser, baptiser et enseigner. Ils doivent être enseignés. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que quelqu'un se rappelle les paroles qui se trouvent dans 2 Timothée 3, 16, 17, passage qui est assez connu, que l'on reprend régulièrement pour montrer que la parole de Dieu est la parole de Dieu, qu'elle est efficace, qu'elle est utile. Toute écriture est inspirée de Dieu, toute écriture. C'est pour ça que, pour nous, l'élément fondamental, c'est toute la Bible, pas juste les 4 évangiles, par exemple. C'est toute la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Ça, c'est justement cette notion du disciple qui grandit, être adapté à toute œuvre bonne. Toute la Bible doit être enseignée. Voilà pourquoi, en fait, chaque dimanche, on ouvre la parole de Dieu et on cherche à comprendre qu'est-ce qu'elle nous dit. Voilà pourquoi, le jeudi, nous faisons des études bibliques ou faisons un cercle de lecture avec un livre en lien avec ce que la Bible nous enseigne. Ou encore d'autres rencontres selon le temps et l'âge. Donc dans sa construction, Jésus n'agit pas sans instruction. Nous sommes tenus de nous y conformer pour construire selon le plan parfait de Dieu. Il ne nous laisse pas comme ça à dire, vas-y, enfin, on est démunis. Non, nous ne sommes pas démunis. Il ne nous laisse pas sans instruction. Et nous sommes tenus de nous y conformer pour qu'on construise tous la même Église. Et le plan parfait de Dieu est toujours bon pour nous. Vous savez, le bonheur se trouve en lui. Dès qu'on commence à goûter de cette présence de Dieu, de ce lien avec lui, on commence à goûter le bonheur. Et je vous assure qu'au moment où on pêche, en tout cas, ça m'arrive, au moment où je pêche et je ne suis plus dans cette même relation, mais je languis après cette relation. Ah, si seulement j'étais tout le temps dans cette situation. Prions Dieu de nous délivrer aussi de ce péché. Ça fait partie aussi de ce que l'on vit en Église. Prions les uns pour les autres. Priez tout le monde. D'ailleurs, Jésus termine ce plan de construction par une promesse, une affirmation vitale que j'aime tellement. C'est sa présence continuelle. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Aucun jour de construction ne sera vécu sans sa présence sur le chantier. Aucun jour de construction sera vécu sans sa présence. Aucun moment de construction ne devra se faire en dehors de sa présence. D'ailleurs, nos forces ne parviendraient même pas. Nous avons besoin de lui à chaque instant. Et après les fondations de la construction, je bâtirai mon église et les portes du séjour ne prévaudront pas contre elle. Nous venons de voir le plan de construction, évangéliser, baptiser, enseigner, sous l'autorité, la puissance et la présence permanente de Jésus-Christ. Voilà un petit peu ces notions de base. Et regardons maintenant ce que les disciples ont fait. Qu'ont-ils fait, les disciples? Ont-ils suivi le plan de construction? Est-ce qu'ils nous donnent un exemple à suivre? Et c'est notre troisième partie, que j'appelle la construction, qui est basée sur tout le livre des Actes. On ne peut pas lire tout le livre des Actes, donc on a lu le début de ce livre des Actes. Hein. Et le livre des Actes, qu'on appelle parfois le livre des Actes des apôtres, pourrait peut-être, à meilleur escient, être appelé le livre des Actes de Jésus-Christ, le constructeur, au travers de ses apôtres, par la puissance du Saint-Esprit. On pourrait dire que Acte 2, que nous avons lu, c'est le détonateur du feu d'artifice de la construction de l'Église. Et nous y voyons d'ailleurs le plan de construction mis à exécution, qui jalonnera d'ailleurs tout le livre des Actes. La structure de la construction est mise en place dès le départ et va se répandre. Les apôtres le mettront par écrit par la suite. Alors avant de voyager un petit peu dans ce merveilleux livre des Actes, revenons à Acte 2. Vous pouvez revenir prendre vos Bibles, aller dans Acte 2, comme ça vous pouvez suivre avec moi. Pour voir ce plan de construction. Le plan de construction, évangéliser, baptiser, enseigner. Eh bien, nous voyons que Pierre prêche. Donc, on a vu juste à la fin de sa prédication. On n'a pas relu toute la prédication. On a d'ailleurs eu dernièrement une prédication sur ce sujet-là. Mais Pierre prêche à la foule présente à Pentecôte et appelle à la repentance et à la foi. Et regardez au verset 41, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et il y en eut 3000 ce jour-là. Hein, le baptême permet une identification claire des membres. Si on peut dire qu'il y en a eu 3000, enfin environ 3000, c'est qu'on a pu voir combien il y en avait. Sinon, on n'aurait pas pu le dire. Donc, une identification claire, on y reviendra. Le verset 42, ensuite, nous enseigne qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est le troisième élément du plan de construction. Hein. Évangéliser, baptiser, enseigner. Nous avons les trois ici. L'enseignement des apôtres, et ce verset le développe avec les quatre piliers de l'Église, hein, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Et vous remarquerez qu'il est bien précisé qui donne l'enseignement dans ce passage, c'est les apôtres. Dès le départ, Jésus a donné une structure à la construction de l'Église en établissant des apôtres, qui sont les fondements, les pierres angulaires. C'est pas les pierres angulaires. C'est le fondement basé sur la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Dieu a établi une autorité sur l'Église, c'est vrai, nous y reviendrons plus tard, qui est basée sur Christ. Et le verset 47, que j'aime beaucoup, résume et souligne ce qui se passe dans la construction de l'Église. Le Seigneur ajoute chaque jour à l'Église ceux qui sont sauvés. Le Seigneur lui-même, je vous avais dit, enfin, c'est pas moi qui le dis, la parole dit que Jésus dit « Je construirai mon Église ». Eh bien, ici, le Seigneur ajoute à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est lui qui ajoute. Lui seul peut faire qu'une personne devienne un enfant de Dieu, une nouvelle créature, une pierre vivante pour bâtir son temple. Donc, le plan de construction que les apôtres ont reçu, ils l'ont accompli comme cela leur avait été demandé. En regardant ce texte, nous avons évoqué encore deux sujets qui font partie de la construction de l'Église. C'est une identification claire des membres et des responsables établis par Dieu sur l'Église. Ceux qui disent « j'aime Jésus, j'aime l'Église, mais je n'aime pas la structure de l'Église et l'organisation de l'Église » sont incohérents. Est-ce que Jésus construirait une Église désorganisée? Qu'est-ce que nous attendons de celui qui a tout créé? Que trouvons-nous par exemple dans le système solaire? Les planètes, est-ce qu'elles flottent dans un chaos désorganisé? Ben non. Elles sont tellement bien organisées que vos montres sont réglées d'après le système solaire. Et si vous observez un tout petit peu les étoiles, il est possible de savoir à quel moment de l'année nous pouvons voir quelle étoile. Pourquoi? Parce que c'est organisé. Parce que c'est structuré. parce que tout est ordonné, chaque étoile a sa place. Et c'est ce que nous voyons en regardant un télescope, par exemple. Chaque chose a sa place. De même, d'ailleurs, dans notre corps également. Chaque membre a sa place. T'imagines pas la main être ailleurs, mais non. Chaque corps, chaque membre a sa place, jusqu'à toutes les cellules du corps. Et s'il n'y a pas d'ordre dans notre corps, dans nos cellules, eh bien c'est de la déformation ou de la maladie. Certaines personnes ne veulent pas d'ordre, d'autorité, de structure, ou si elle est tolérée, elle ne doit être que de la décoration et ne déranger personne. Mais le Nouveau Testament, qui est un rappel du Saint-Esprit de tout ce que le constructeur a enseigné, est rempli d'ordre. Vous savez, une église dans le Nouveau Testament, que vous connaissez, l'église de Corinthe, qui était dans un désordre, qui était chaotique, qu'est-ce qui s'est passé? L'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, a écrit à cette église en leur disant très clairement que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Tout ce qui est dans l'église doit refléter l'ordre de Dieu. Parlons donc maintenant de l'identification claire des membres de l'église. La Bible est manifeste sur qui en fait partie et qui n'en fait pas partie. Et il est possible de compter. Dans Acte 15, par exemple, il dit qu'ils étaient 120. On a pu compter jusqu'à 120. Les églises avaient une liste de veuves dans les églises. On trouve ça dans 1 Timothée 5, par exemple. Nous avons vu tout à l'heure dans Acte 2 qu'il est parlé de 3000 personnes, alors d'environ 3000. On a quand même pu compter. Et même un peu plus tard, dans Acte 4, il est parlé de 5000. Donc il est possible de les identifier. Chaque jour, le Seigneur ajoutait de nouvelles personnes. On peut compter chaque nouvelle personne que l'Éternel ajoute. Et si on lit le chapitre 5, hein, qui commence par cette terrible histoire de Ananias et Saphira, et on voit que par la suite, l'Église tremblait avec de la crainte, et les autres. L'Église et les autres. C'est clairement une distinction. Pourquoi Jésus, le divin constructeur, veut-il qu'il y ait une claire distinction entre l'Église et les autres? Eh bien, il y a plusieurs raisons. La première, me semble la plus importante peut-être, c'est pour marquer une différence entre ceux qui sont sauvés et ceux qui sont perdus. Alors comprenez-moi bien, ce n'est pas parce qu'on est dans une Église qu'on est sauvé, mais ceux qui sont sauvés sont dans l'Église. Bon, qu'on se comprenne bien. Mais c'est pour marquer une différence entre ceux qui sont sauvés et ceux qui sont perdus. Deuxièmement, c'est pour que la discipline puisse être exercée. D'ailleurs, significatif que la deuxième fois que Jésus utilise le terme Église, la première fois, vous souvenez, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Hein. Ça, c'est la première fois que Jésus utilise le terme Église ou Ecclésia. Et la deuxième fois que Jésus utilise ce terme, c'est dans Matthieu 18, où il est parlé de la discipline. Donc, cela seul avec un témoin. Et devant l'Église, et s'il n'écoute pas, qu'il soit traité comme un païen et un étranger. C'est-à-dire qu'il soit traité comme étant en dehors de l'Église, comme n'étant pas dans l'Église. Et troisièmement, pourquoi le divin constructeur veut-il qu'il y ait une claire distinction? C'est pour que les responsables spirituels puissent fonctionner et exercer leur ministère envers les membres de l'Église que Dieu leur a confiés. Et justement, parlons de ces responsables. Dieu a établi des responsables sur l'Église. Au travers de tout le livre des Actes, nous voyons que Jésus construit son Église au travers des apôtres qui organisent des églises. Dans Acte 13, par exemple, nous voyons l'Église d'Antioche qui a des prophètes et des docteurs désignés. D'ailleurs, Paul en faisait partie. Paul et Barnabas sont envoyés pour annoncer l'Évangile par l'Église. Hein, et ils sont envoyés, ils passent par Chypre, on va voyager là, Chypre, Paphos, Perge, Antioche, de Pisidie, Iconium, Lystre, où en fait des gens croient en Jésus-Christ à tous ces endroits. Et que fait-il ensuite? Il revient par tous ces endroits-là, et que fait-il? Il leur dit ceci: c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et ensuite, ils firent nommer pour eux des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Actes 14, 22 et 23. Les chrétiens n'étaient pas appelés à vivre leur foi en solitaire, mais organisés en église locale. Ce n'était pas simplement un petit groupe de partage, mais une église structurée avec des responsables désignés. Il n'y avait pas l'idée si populaire aujourd'hui d'être juste moi avec Jésus et ma Bible. Non. Le Nouveau Testament nous parle de l'église de Jésus-Christ, qui sont des croyants rassemblés en église organisée, dans un corps structuré appelé l'église locale, où les croyants vivent la vie chrétienne, adorent Dieu, prennent la communion, se servent les uns les autres, annoncent l'Évangile, etc. Si je vous dis, par exemple, Philippe, Thessalonique ou Corinthe, ça vous dit quelque chose? Ben ouais, parce qu'en fait, des églises de ces villes ont reçu des lettres qui sont dans la Bible. C'est des églises qui ont reçu des lettres. Les églises que Jésus construit au travers de ses disciples ne sont pas des rassemblements désorganisés, mais des églises locales organisées avec des membres clairement reconnaissables. Ils étaient baptisés avec des responsables clairement reconnus que l'on appelle anciens et diacres. Et vous savez, les bergers des églises seront jugés pour leur travail par Dieu. Mais le berger ne doit pas rendre compte de toutes les brebis du monde entier, mais de celles de l'église locale où Dieu l'a établie. Le berger ne va pas rendre compte pour les brebis du monde entier, mais pour celles de l'église locale où Dieu l'a établie. Il a clairement défini qui en fait partie et qui n'en fait pas partie. Dieu a donné l'église pour grandir, pour acquérir la maturité spirituelle. Et cela se vit dans une église locale et pas dans un corps invisible que l'on ne voit pas, où on n'a aucun contact, aucun lien, mais dans un corps formé de membres imparfaits, sanctifiés par Jésus-Christ. Des personnes réelles qui vont stimuler chacun. Des membres que les autres n'ont pas choisis et que Dieu a placés à nos côtés. C'est dans une église locale que vous allez pouvoir exercer votre patience. Ah, tiens, la patience. Hein? Vivre l'amour de Christ, la sainteté, la redevabilité et tout le fruit de l'esprit. Toutes ces grâces ne se vivent pas seules dans un monastère ou dans son appartement, mais mis côte à côte avec des personnes qui ont autant besoin de grâce que nous et qui cheminent dans la sanctification comme nous. Ce matin, nous avons vu que Jésus-Christ bâtit son Église. C'est lui qui est le fondement de la construction. C'est lui qui donne le plan de construction et c'est lui qui structure sa construction. Alors prions que l'Éternel nous donne la joie à annoncer l'Évangile, de voir des baptisés, d'être motivés à grandir dans l'enseignement, la communion pour la gloire de notre Dieu. Et que beaucoup encore puissent entrer dans l'Église de Jésus-Christ et nous réjouir ensemble de grandir les uns aux côtés des autres. Tout en sachant, c'est vrai que quand vous aurez besoin de patience avec moi, comme j'en ai besoin avec vous. On a besoin de ça. Ah, vous vous souvenez du verset qu'on a appris ? Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a quelque chose à... si quelqu'un a un sujet à se plaindre d'un autre, voilà, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Et bien que le Seigneur nous donne cette grâce d'entrer dans ce cheminement qui est un cheminement de joie et de paix. Nous allons prier ensemble. Prions. Ô Éternel, notre Dieu, notre roi, toi qui es le créateur de l'univers, tu as fait toutes choses. Et nous voyons que tu es un Dieu qui a fait toutes choses de manière à ce que cela soit organisé, structuré, à ce que cela puisse, Seigneur, fonctionner. Nous voyons, Seigneur, combien d'éléments sont mis en place et combien d'éléments nous ne voyons même pas d'ailleurs, mais qui manifestent ta grandeur, qui manifestent ton intelligence, ta puissance, ta grâce, ta bonté aussi envers nous. Et Seigneur, nous te louons et t'adorons parce que c'est toi qui as mis en place l'Église. Merci parce que ta parole nous rappelle que ce n'est pas un homme, ce n'est pas quelqu'un qui a eu l'idée, l'apôtre Paul ou Pierre ou d'autres, qui se sont dit on va construire une Église. Non, c'est toi, notre Dieu. Il est bon de se rappeler ces paroles, je construirai, je bâtirai mon Église, c'est ton Église, Jésus-Christ. Et nous voulons te prier de nous aider à être conscient de cela dans toutes les phases de construction dans lesquelles tu nous fais participer, tu nous fais entrer, que nous puissions saisir que tu as tout pouvoir qui t'a été donné dans le ciel et sur la terre, qu'à aucun moment tu n'es pas présent parce que tu es là tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, quelle grâce! Et j'aimerais te prier de nous donner de la joie de vivre dans cette église que tu as aimée jusqu'à donner ta vie, ton sang a coulé pour ce joyau que tu prépares pour le jour des noces de l'agneau. Ô Seigneur, donne-nous la grâce de ne pas nous rebeller contre les structures, contre le plan de construction que tu nous donnes, mais plutôt à y entrer, parce que c'est ainsi que nous serons dans la joie, dans la paix, dans le bonheur que toi tu nous donnes en Jésus-Christ. Seigneur, j'aimerais te remercier pour chacun ici présent. Merci parce que tu nous renouvelles, tu nous encourages, tu connais nos besoins, tu connais nos faiblesses. Seigneur, tu ne nous demandes pas de d'être sans faille. Tu ne demandes pas d'être parfait pour entrer dans ton Église. Seigneur, ce que tu fais, c'est que tu nous donnes Christ, sa vie, sa mort, sa résurrection, sa gloire. Et c'est en lui que nous vivons. Comme nous l'avons vu la dernière fois, nous sommes intimement et indissociablement liés à Christ. Nous sommes en Christ. Et c'est en lui que nous voulons nous réjouir. Ô Seigneur, permets que nous puissions toujours revenir à lui à tout moment. Que dans les moments où nous péchons, Seigneur, que nous courions à la croix. Que dans les moments où nous sommes dans la joie de voir la victoire dans nos vies sur le péché, que nous courions encore à la croix pour te glorifier, te louer, t'adorer. Que nous puissions nous porter les uns les autres. Ô Seigneur, j'aimerais te prier aussi que ce soit clair pour chacun ici présent. Est-ce que je suis dans l'Église ou hors de l'Église? Afin que, Seigneur, il puisse y avoir une claire distinction. Et que pour ceux qui sont hors de l'Église puissent se tourner vers toi, transformer par ta grâce, courir à toi et se réjouir d'entrer dans cette Église. Pour ta gloire et en ton honneur, dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen.